FI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est le prochain grand rendez-vous international des défenseurs de l'environnement. Du 7 au 15 janvier à Marseille, dans le sud de la France, se tiendra le Congrès mondial de la nature. 100 000 personnes sont attendues pour débattre des stratégies à mettre en place pour lutter contre l'effrayante dégradation de la biodiversité qui se déroule sous nos yeux. Cet événement est organisé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est la plus grande et la plus ancienne des organisations environnementales du monde. Alors pourquoi ce congrès est-il important? Quels sont les rôles et l'impact de l'UICN du Canada à la Suisse en passant par le Cameroun, le Bénin et la France? Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Sébastien Moncor.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du comité français de l'UICN. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter cette organisation mondiale qui, je le disais, est la plus grande en termes de membres, en termes de représentativité dans le monde aussi, et la plus ancienne, puisqu'elle a été créée, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Fontainebleau en France en 1948.
Tout à fait. L'idée, c'était d'avoir, comme le nom l'indique, une union, donc vraiment le grand rassemblement de tous les acteurs de la protection de la nature. Donc l'UICN est une organisation internationale qui regroupe aujourd'hui 1300 organisations membres, avec une particularité qui était là à son origine et qu'elle a toujours gardée, c'est que nous avons des organisations gouvernementales, c'est-à-dire des États comme la France, des organismes publics, donc des établissements publics comme le Conservatoire du Littoral en France, l'Office National des Forêts, et des ONG. Donc on a ce mixte entre des organisations gouvernementales et non gouvernementales, donc 1300, plus de 160 pays représentés. Et l'autre grande particularité de l'UICN, c'est son réseau d'experts. Plus de 15 000 experts qui collaborent de façon bénévole et volontaire aux travaux de l'Union et qui sont regroupés en 6 commissions thématiques qui donnent un peu les grands domaines d'activité de l'UICN. Les espèces menacées, les aires protégées, le droit de l'environnement, la gestion des écosystèmes, l'éducation et la communication et les politiques environnementales, économiques et sociales.
Voilà, planter le décor, on comprend l'ampleur désormais de l'UICN, alors qui organise donc tous les 4 ans son congrès mondial, qui aura donc lieu, je le disais en introduction, du 7 au 15 janvier prochain à Marseille, enfin on l'espère, parce que dans le contexte actuel on n'est jamais trop sûr, mais on va être optimiste. Alors qu'est-ce qui va se passer à Marseille en janvier ?
Alors en janvier, donc, ce sera ce grand rassemblement qui, comme vous l'avez dit, a lieu tous les 4 ans. Donc c'est là que va converger toute la communauté internationale engagée sur la conservation de la nature. Ce congrès est divisé en 2 grandes parties. On a vraiment une première partie qui est ce qu'on appelle le forum, donc qui est un vaste espace de débats, d'échanges d'expériences, de présentations de projets, de solutions qui marchent. L'objectif, c'est vraiment de montrer que la conservation de la nature, ça marche, qu'on a des solutions, qu'on est capable d'avoir des résultats. Et qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est avant tout, c'est de changer d'échelle. C'est de pouvoir généraliser, c'est de pouvoir évidemment confronter ces expériences, s'inspirer de ce qu'a fait, vous avez cité des pays, ce que fait le Canada, ce que fait la Suisse, ce que fait le Bénin, ce que fait le Cameroun, dans des contextes évidemment différents, mais dans lesquels on peut trouver des sources d'inspiration. Donc c'est toute cette confrontation d'idées, de débats, d'échanges, de dialogues. Et puis la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée Générale de l'UICN. Et donc là, on va les grandes décisions, c'est on va adopter plus d'une centaine de recommandations politiques qui permettent en fait à la fois d'identifier les priorités d'action aujourd'hui sur la nature qui en a bien besoin, et puis d'adopter le programme de travail de l'UICN, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur les 4 prochaines années, c'est quelles sont les thématiques, les enjeux, et puis élire aussi notre nouveau conseil d'administration avec un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Voilà, donc ça c'est la partie un peu institutionnelle. Alors pourquoi est-ce que ce rendez-vous est si important dans l'agenda international ?
Alors c'est parce que c'est vraiment ce lieu privilégié en fait d'échange et de débat, hein, enfin entre tous les acteurs de la conservation de la nature. Les gens viennent pour se rencontrer, hein, pour discuter, pour échanger, pour évaluer la qualité de leurs actions, savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde, montrer ce qu'ils font, confronter leurs points de vue, leurs idées. Et puis, l'UICN est reconnu à travers ses recommandations pour façonner un peu l'agenda international de la conservation de la nature. Donc, savoir quelles sont aujourd'hui les problématiques importantes sur lesquelles on doit agir, quelles sont les solutions que nous proposons, et puis générer cet effet, ce nouvel engouement que tout le monde attend pour mettre fin à cette extinction dramatique de la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui.
Et dans quelques mois, après ce congrès, il y aura la Convention des Nations Unies sur la biodiversité en Chine, là aussi, si tout va bien. Et du coup, ces recommandations qui devraient être prises en janvier à Marseille devraient servir peut-être un peu de guide pour ce qui sera adopté par tous les États membres de cette Convention des Nations Unies sur la biodiversité quelques mois plus tard. Donc c'est un peu dessiner les contours de la décennie 2020-2030 pour la préservation de la biodiversité, rien que ça finalement.
C'est ça, c'est un peu on a une conjoncture en fait tout à fait particulière entre donc ce congrès mondial de l'UICN qui sera le plus gros congrès mondial jamais organisé, hein, avec les inconvénients quand même de la crise sanitaire, mais sur le papier, c'est le plus gros événement et qui trouve une conjonction tout à fait intéressante avec quelques mois après la COP15 biodiversité, donc qui est moins connue que celle du climat, mais qui a des enjeux importants. Et là aussi, c'est une COP qui n'est pas une COP comme les autres, puisque c'est une COP à la fois du bilan, c'est-à-dire que les États s'étaient engagés en 2010 à travers une stratégie mondiale pour la biodiversité à atteindre 20 grands objectifs internationaux sur la biodiversité. Donc on va faire le point sur l'atteinte de ces objectifs. Globalement, quand même, le compte n'y est pas. Et donc, les États vont se réengager sur les 10 prochaines années, donc sur 2020-2030, avec de nouveaux objectifs à atteindre. Et évidemment, l'objectif, c'est de tirer les leçons du passé, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, et de mettre en place toutes les conditions du succès pour qu'en 2030, on ait renversé cette tendance et même commencé à regagner, à reconquérir en fait la biodiversité.
Oui, et c'est vrai qu'il y a souvent un décalage entre les intentions et les actes, et là vraiment, on n'a plus le temps. Alors la mobilisation est essentielle parce que quand on prend soin de la nature, eh bien ça marche, et nous sommes en ligne justement avec Aurélien Garot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes conseiller auprès d'associations qui se battent justement pour la préservation de la biodiversité. Vous êtes à Mindelo, qui est l'une des îles du Cap-Vert. Et vous souhaitiez partager avec nous une bonne nouvelle pour la biodiversité au large des côtes sénégalaises. Une nouvelle concernant les tortues kawanes. Faites-nous plaisir.
Oui, bonjour. Bah, effectivement, je suis installé au Cap-Vert dans le cadre de deux programmes internationaux qui appuient des associations de conservation de la biodiversité. Un premier qui est le PPI, qui est géré par le comité français de l'UICN et financé par le FEFEM et la Fondation MAVA. Et un deuxième qui est le CEPF, le Fonds pour les écosystèmes critiques. Et pourquoi le Cap-Vert ? Parce que c'est une zone riche en biodiversité et notamment pour les tortues kawanes, où on se retrouve sur le troisième site mondial de ponte pour ces tortues qui sont inscrites dans la liste rouge de l'UICN. Et la très bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'on constate un boom des pontes qui vient confirmer en fait la tendance des deux dernières années. À titre de comparaison, dans les années 2000, au tout début des actions de conservation ici par les associations, on était à moins de 10 000 nids comptabilisés. Et cette année, alors qu'on est à 3 mois dans la saison et qu'il nous reste encore 2 mois de ponte, on a déjà dépassé les 100 000 nids. Donc une énorme augmentation en fait depuis quelques années, et qui est notamment due à cet effort qui est mis en œuvre par les associations sur place sur les différentes îles de ponte ici au Cap-Vert, et qui concrètement permet à ces tortues de venir en toute sécurité pondre sur ces plages.
Oui, il faut saluer en fait, hein, il faut saluer la mobilisation des ONG sur place qui font des patrouilles anti-braconnage, du suivi de protection des nids, qui remettent à l'eau les tortues perdues. En fait, en gros, c'est grâce à la mobilisation des ONG, ce que je disais tout à l'heure, quand on se mobilise, ça marche, qu'il y a cette année de ponte exceptionnelle, mais pas seulement, hein, il y a d'autres causes.
Bah effectivement, on met en avant énormément le travail des associations sur place, parce que c'est vrai que c'est là où on peut constater les pontes sur les plages, et donc c'est là qu'on peut constater l'augmentation du nombre. Il y a aussi des causes naturelles qui sont mises en avant, comme c'est vrai que l'augmentation des températures de l'eau permettrait du coup une augmentation de la présence de nutriments, de méduses et donc d'alimentation pour ces tortues. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut constater ici. En fait, le résultat aussi de ce travail, c'est derrière un changement de vision de l'animal localement qui par le passé était aussi mangé, braconné. Et du coup, le travail au quotidien de présence, de mise en avant, de sensibilisation, d'intégration des pêcheurs dans les patrouilles et de valorisation touristique fait qu'aussi on a changé de vision de l'animal qui est maintenant plus mise en valeur. Et du coup, qui permet derrière d'avoir cette sécurisation, encore une fois, des sites qui du coup permet d'avoir une augmentation de ces pontes et une augmentation exceptionnelle du nombre de tortues à venir au Cap-Vert cette année. Tortues qui sont du coup sur la liste rouge de l'IUCN, donc menacées. Donc c'est une très bonne nouvelle à ce niveau-là pour la biodiversité, avec tout le travail qui est fait en amont.
La loi a même changé hein, au Cap-Vert en 2018, puisque c'est désormais un crime de consommer ou de tuer une tortue. Alors toutes ces tortues qui sont nées au Cap-Vert durant cette saison vont aller sur les côtes ouest-africaines. Donc il faudrait que tous les pays ouest-africains soient aussi vigilants que le Cap-Vert.
Exactement, c'est une question qui ne se pose et bien évidemment sur les côtes tout d'abord capverdiennes, mais également en mer et plus au large avec les déplacements qui peuvent être faits par ces tortues. Et donc on a également des menaces qui se trouvent en pleine mer, comme les pollutions plastiques, les pollutions de déchets de pêche que les tortues rencontrent au quotidien lors de leurs déplacements en mer et qui font partie des menaces sur lesquelles il faudra continuer à intervenir. Ici, on le constate bien avec tous les déchets qui sont ramenés et jusqu'au Cap-Vert sur les plages et qui sont du coup des sites de ponte où on trouve une quantité assez importante de plastique ou de déchets qui arrivent et là où les tortues doivent venir. Donc c'est une des menaces effectivement qui doit être prise en compte à l'échelle plus large que non seulement locale. Et qui doit compléter tout le travail qui est fait sur ces sites de ponte. Oui.
Merci beaucoup Aurélien Garot pour votre témoignage et n'hésitez pas à nous appeler hein, quand vous avez des bonnes nouvelles comme ça. Dans le domaine de la biodiversité, elles sont assez rares, donc on est ravis de vous entendre. Sébastien Moncor, voilà un exemple qui prouve que la mobilisation paye.
Exactement, et qui montre aussi justement l'intérêt d'organisations internationales comme l'UICN, c'est-à-dire que dans le cas d'espèces, par exemple, migratrices, voilà, qui vont se déplacer dans différents pays, l'intérêt, c'est justement de pouvoir avoir des organisations qui permettent de rassembler les acteurs de différents pays pour mieux coordonner les actions. Et notamment, c'est indispensable pour ces espèces migratrices qui naviguent de pays en pays. Une des actions fortes de l'UICN par le passé, c'est justement à travers ses congrès d'avoir aidé à structurer le droit international de l'environnement. Donc l'UICN a aidé à mettre en place, et c'est issu de ses recommandations du congrès, la première convention internationale sur la protection des zones humides, la convention Ramsar, la convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 79, c'était la convention de Bonn justement sur les espèces migratrices et la convention de Rio sur la diversité biologique adoptée en 1992. Donc on a besoin effectivement de renforcer cette coopération entre les pays, on a besoin de ces accords internationaux. Et on a absolument besoin, peut-être même encore en priorité, de cette action sur le terrain des ONG, qui est évidemment une composante fondamentale pour agir concrètement et protéger les milieux naturels. Et on voit bien le résultat, c'est-à-dire on voit qu'il y a quand même une certaine résilience des espèces, des milieux naturels, à condition qu'on ne passe pas un point de rupture. Et on voit que dès l'instant qu'on relâche la pression humaine, et on l'a observé pendant cette période de confinement un peu partout dans le monde, on a vu le retour d'espèces dans les milieux naturels, dans les villes. Et donc, on a vu cette nature qui ne demande qu'à reprendre ses droits.
Alors, petit contraste, en France, le débat ne vous a pas échappé. Hein, connu, on le disait, l'UICN est connu pour ses listes rouges d'espèces et d'écosystèmes menacés. Sur cette liste rouge, il y a les tourterelles des bois, qui sont donc une espèce menacée d'extinction. Et alors, le gouvernement français, à quelques mois d'accueillir le Congrès, vient d'autoriser la chasse de près de 18 000 tourterelles des bois. C'est quoi, il y a un décalage là entre les bonnes intentions du gouvernement d'accueillir ce congrès et puis pour le coup l'autorisation de la chasse d'une espèce menacée?
Alors il y a effectivement la candidature de la France, parce que on est un peu comme aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les pays ont candidaté pour pouvoir accueillir le congrès mondial de l'UICN, qui est quand même un grand événement. Donc il y a une volonté quand même d'agir et de...
Oui, mais les grandes réunions, c'est facile à organiser, il faut être exemplaire sur le terrain.
Exactement. Après, on a encore effectivement des contradictions fortes en France, il y en a aussi dans d'autres pays. Et la conservation de la nature est un combat de tous les jours sur des décisions justement incohérentes et qui ne vont pas dans le sens de la protection de la biodiversité.
Mais là, il semble que les chasseurs aient été plus forts que les conservateurs de la nature. Restez sur RFI, dans un instant nous irons au Cameroun, mais restons quelques minutes encore au Cap-Vert en compagnie de Cheka Doldemar.
Amis na be gerina jabata fazika boku Galbata galbata marinye rasta lanche Galbata galbata ma subina terra Galbata galbata ma subina terra Oma Ta quitinho deixam viver O mar abre os braços um crer viver E a mama curou de filho Com o menino só tá puxando o peito E a mama curou de filho Com o menino Só tá puxando o peito Yeah, mama cura Beama, só tá galbata Yeah, mama cura Beama, só tá galbata Yeah, mama, se mojar lá Ainda pior é que a nega seu filho Oh, mama, se mojar lá Ainda pior é que a nega seu filho Ainda pior é que a nega seus filhos Nega os filhos E é que tem culpa de nós Nega os filhos E é que tem culpa de nós Quem que crê na vida Tudo pode mudar Quem que crê na vida Tudo pode mudar Crie e tem fé que a natureza ensinou Crie e tem fé que a natureza mostrou Quem que tá crê na vida tudo pode mudar Quem que tá crê na vida tudo pode mudar Crie e tem fé Quer que a natureza ensina Tá mudando os pensamentos
Le Cap-Verdien Tchéka dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du prochain grand rendez-vous international de l'environnement, le Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille du 7 au 15 janvier prochain. Nous sommes en compagnie de Sébastien Moncor, directeur du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui organise donc cet événement tous les 4 ans, est implanté, vous le disiez Sébastien Moncor, dans tous les pays, enfin dans quasiment tous les pays, 160 pays membres, et notamment sur le continent africain, il y a une forte présence.
Tout à fait. Oui, il y a vraiment une représentativité mondiale de l'UICN à travers à la fois des organisations membres, État, établissements publics, des ONG ou son vaste réseau d'experts. Donc on a vraiment une représentativité mondiale dans l'organisation.
Alors nous sommes justement en ligne avec le Cameroun. Bonjour Roger Ngoufo.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le président du comité camerounais de l'UICN. Alors combien d'associations font partie de l'UICN au Cameroun ?
L'UICN au Cameroun, c'est une union, c'est-à-dire qu'il y a divers experts qui travaillent dans le cadre des commissions spécialisées et ensuite les membres véritables, c'est-à-dire les membres qui votent pour l'UICN, qui sont au nombre de 15.
Alors ce sont globalement des associations. Quels sont les sujets mis en avant par ces associations en ce moment dans l'actualité de la biodiversité camerounaise ?
Oui, ce que je peux dire, c'est que dans les structures qui travaillent avec l'UICN, il y a une diversité, c'est-à-dire les membres sont à la fois l'État camerounais, représenté par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de l'Environnement Durable, mais aussi il y a des structures étatiques comme l'École de Faune de Garoua, le Centre d'études de l'environnement et de développement du Cameroun, qui sont au nord Cameroun, dans la zone soudano-sahélienne. Et puis, on a des ONG qui sont réparties dans toutes les zones écologiques, depuis la zone humide, dense, forestière, à la zone soudano-sahélienne, voire sahélienne. Donc, c'est comme ça que ces structures sont réparties.
Alors, il faut dire que le Cameroun a un peu toutes les zones écologiques de l'Afrique, hein, globalement.
Oui, on est un résumé. Vous savez que le Cameroun va de la zone équatoriale, quelques degrés seulement au-dessus de l'équateur, jusqu'au début du Sahel. Donc, c'est ça qui fait en sorte que le Cameroun soit véritablement un résumé de l'Afrique. Et le comité essaie de traduire cet aspect de résumé du Cameroun et donc de l'Afrique.
Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, Roger Ngoufo, du congrès de l'UICN qui aura lieu en janvier prochain à Marseille ?
Le programme le congrès de l'UICN, d'abord, ce que nous en attendons, nous avons en Afrique centrale, au Cameroun, des défis en termes d'insécurité, qui est en lien avec la criminalité faunique, ensuite la dégradation des terres et des forêts, et aussi, évidemment, le problème du changement climatique. Donc, bah, c'est quelques-uns des problèmes. Notre souhait, c'est que le Congrès puisse permettre de porter au-devant ces grands défis-là et aussi de mobiliser davantage de ressources pour y faire face et de partager des expériences avec les autres. Donc, voilà ce que nous attendons de manière résumée.
Merci beaucoup Roger Ngoufo pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du comité camerounais de l'UICN. Sébastien Moncor, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? On voit qu'il y a une forte attente du côté des pays de l'Afrique centrale et du côté ouest africain aussi.
Oui, bien sûr, parce que comme le rappelait Roger, le Cameroun se situe dans une zone extrêmement importante pour la biodiversité mondiale, qu'est le bassin du Congo. Donc avec des défis tout à fait importants sur lesquels, là, on se rejoint sur plusieurs thématiques qu'il a évoquées, puisque nous, on a mobilisé les membres français pour mettre sur la table un certain nombre de sujets.
Oui, parce que l'UICN en France, c'est important aussi, on n'en a pas parlé du coup, voilà, mais il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'associations.
C'est le deuxième pays qui a le plus grand nombre de membres de l'UICN dans le monde, après les États-Unis. Donc on a toujours effectivement été une force de proposition importante depuis notre création en 1992, et effectivement, là, avec le congrès mondial à Marseille, il y a un effet congrès. Donc là, nous, on a proposé 18 recommandations sur les 128 qui vont être évoquées, dont des problématiques qui rejoignent directement celles que vient de mentionner Roger. On a posé, par exemple, une motion sur la lutte contre la déforestation importée. Donc,
alors, il faut expliquer le concept rapidement, parce que pour les auditeurs, c'est un peu compliqué.
Donc, c'est effectivement de dire qu'à la fois, les pays qui hébergent des forêts, et notamment des forêts tropicales, comme le Cameroun, ont une responsabilité dans leur protection, mais que même les pays qui n'ont pas de forêt tropicale sur leur territoire, comme la France, par l'économie française, en fait, exercent des pressions en fait sur ces forêts tropicales. Donc, en fait, c'est une déforestation que nous importons à travers en fait les produits agricoles que nous consommons en France.
Donc, oui, alors on pense évidemment au soja brésilien.
Voilà, on pense à l'huile de palme, on pense au cacao justement en Afrique, l'EVA aussi, tout ce qui est produit à base de cuir, de bœuf aussi, qui entraîne de la déforestation. Donc même si la France n'a pas de forêt tropicale, nous avons une responsabilité en fait, et quand on dit la France, c'est aussi d'autres pays, hein, qui, d'autres pays, notamment d'autres pays européens, qui ont une responsabilité, finalement indirecte, mais une responsabilité dans la dégradation de ces forêts. Donc nous, ce que nous proposons, c'est qu'à l'image de la France, mais aussi de la Norvège, c'est que les pays, en fait, adoptent une stratégie, chacun adopte, donc prennent en compte cette responsabilité et adoptent une stratégie de lutte contre la déforestation importée. Donc en fait, c'est la responsabilité des États, et aussi, on demande aussi aux entreprises de s'engager dans cette voie, c'est-à-dire de garantir que les produits qu'ils mettent sur le marché soit on puisse dire que ça a été produit et importé dans des conditions garantissant qu'il n'y ait pas eu de déforestation pour les produire. Voilà, on a aussi le bassin du Congo, c'est effectivement la problématique de la protection des grands singes. Donc toutes les espèces de grands singes qui sont nos principaux cousins dans l'histoire de l'évolution sont menacés. Donc là aussi, on porte et on a travaillé justement avec plusieurs ONG africaines, membres de l'UICN, sur cette recommandation pour demander à structurer davantage le réseau des ONG en Afrique et en Asie du Sud-Est, parce que c'est là-bas qu'on a notamment les orang-outans, pour qu'on renforce et qu'on donne davantage de moyens. Roger évoquait cette question aussi du financement. Évidemment, c'est le nerf de la guerre.
C'est crucial.
C'est indispensable pour qu'ils aient les moyens d'agir davantage sur le terrain.
Restez sur RFI, quelques minutes de pause en compagnie du Hongrois Visonto. Allez, je me lance dans le titre « Ezust Musica ».
Szórj egy fácskát a fejemhez, egy
Roy Visonto dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du prochain grand rendez-vous international de l'environnement. Ce sera le Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille du 7 au 15 janvier prochain. Nous sommes en compagnie de Sébastien Moncor, directeur du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a publié en juillet dernier, Sébastien Moncor, comme chaque année, sa liste rouge des espèces et des écosystèmes menacés sur plus de 120 000 espèces répertoriées. Plus d'un tiers sont menacées par les activités de l'homme. C'est comme si on assistait à un film catastrophe sans réagir, en fait.
Ce qui est important, c'est déjà de disposer du bon baromètre. Et ça, c'est un apport important de l'UICN. C'est son document probablement le plus connu. C'est cette fameuse liste rouge des espèces menacées qui existe depuis le milieu des années 50, donc qui s'est enrichie au fil du temps, qui est régulièrement actualisée et qui effectivement permet de nous donner la tendance en fait sur le déclin des espèces. Et malheureusement, actualisation après actualisation, le bilan ne s'améliore pas. On a tout de même quelques réussites en matière de conservation qui sont mises en avant. Des espèces qu'on arrive à sauver de l'extinction ou à réintroduire avec succès. Mais on voit que la tendance générale est effectivement à un appauvrissement de plus en plus important et un déclin de plus en plus prononcé des espèces. Le grand fait nouveau, c'est qu'effectivement, ça ne concerne pas simplement que les espèces emblématiques que tout le monde connaît, l'ours polaire, le panda, l'éléphant, mais que c'est de plus en plus les espèces en fait communes hein, qui déclinent à un rythme assez alarmant. Dans le contexte français, donc on a une diminution de 30% des oiseaux communs dans les milieux agricoles en 15 ans. Et puis, il y a des études qui sont sorties en Allemagne sur le déclin très important des insectes, donc avec un déclin de plus d'environ 75 à 80%, donc, qui montre qu'on a en fait un effondrement effectivement généralisé de la biodiversité.
Alors à ce propos, je vous propose d'écouter l'astrophysicien Aurélien Barreau que nous avions reçu à l'occasion d'un congrès parisien et je vous propose de réagir ensuite à ce qu'il dit.
Soyons un peu sérieux, d'accord? Nous sommes face à un crime d'écocide. La vie est en train de disparaître sur Terre. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire, dans ces proportions et à cette vitesse. En 5 milliards d'années d'évolution subtile, nous n'avons jamais atteint ce niveau de catastrophe. C'est la première fois dans l'histoire peut-être de l'univers qu'une espèce induit l'extinction massive de toutes les autres. Bon, c'est quelque chose sans précédent, d'une gravité absolument extrême. Donc là, on ne joue pas. Nous sommes les gens sérieux qui essayons d'expliquer les réalités physiques, les réalités biologiques et les réalités éthiques. On voyait il y a quelques minutes un chef d'entreprise manifestement très respectable nous dire « Écoutez, ça va quand même plutôt bien malgré ce qu'on nous dit. » Mais non, ça va pas bien. On vient de perdre 60% des espèces d'animaux sauvages en 40 ans, on vient de perdre 70% des insectes en 10 ans. C'est une catastrophe sans nom. Mais ils s'en foutent des insectes et ils s'en foutent des animaux sauvages. Donc évidemment, ils nous expliquent que quand même les voitures électriques en ville c'était bien. Mais non, en ville c'est pas de voiture du tout qu'il faut faire, pas passer à la voiture électrique. Il n'a rien compris. Ils sont complètement à côté de la plaque.
Ils sont nombreux donc, encore comme ça.
Oui, mais nous sommes dirigés par des fous. Donc là, il faut à un moment quand même qu'on reprenne les rênes, non pas au nom d'une autre vision du monde, au nom d'un peu de sérieux. Il faut faire preuve d'un peu de sérieux maintenant, parce que là, ça relève limite de l'aliénation, ou en tous les cas de l'hébétude, le comportement actuel. Donc il va falloir quand même qu'on commence à comprendre ça, et effectivement, qu'ensuite on discute à la marge, bien sûr, parce que personne n'a la vérité infuse, et certainement pas moi, mais il faut quand même que déjà ce constat que vous évoquiez commence à être partagé, parce qu'il ne l'est pas à l'heure actuelle, exactement comme pendant l'ère coloniale, qui d'ailleurs existe encore dans une large mesure, tout le monde s'en foutait que les pauvres meurent dans les pays d'Afrique. C'était simplement une question pas relevante pour les puissances coloniales dominantes. Là, c'est exactement ce schème que nous reproduisons aujourd'hui. Et c'est pas seulement une question de bonté d'âme ou d'altruisme. C'est une question maintenant d'intérêt commun.
Sébastien Moncor, quand on écoute Aurélien Barreau, on se dit mais ce congrès de l'UICN qui va réunir des États, qui va décider des motions, etc. Enfin, vous le disiez, l'UICN a été créé en 1948 et depuis ça ne cesse de se dégrader. Donc est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu? Est-ce qu'il faut, enfin après, vous me direz qu'est-ce qu'il faut faire? Mais
le constat, c'est que je pense que si les différentes organisations de conservation de la nature n'avaient pas été là, le bilan serait encore plus catastrophique qu'il ne l'est actuellement, ça c'est sûr. Et il faut qu'on le bilan est dramatique, mais il doit pas être démobilisateur, et au contraire. Donc nous, ce que nous souhaitons à travers le Congrès, c'est un véritable appel à sursaut, comme le dit Aurélien Barraud. Et en fait, le défi maintenant, c'est qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on va protéger la nature avec différents patchs correctifs, cosmétiques. Et donc nous appelons, maintenant même la Convention de l'ONU sur la biodiversité, à ce qu'on appelle un changement transformateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement qu'on soit là en pompier de l'urgence sur la disparition imminente de telle espèce ou de tel habitat. Il faut qu'on soit véritablement dans le fond des choses, c'est-à-dire vraiment dans la refonte de notre système en fait de production et de consommation, dans la révision vraiment profonde de nos différentes politiques, que ce soit la politique agricole, la politique de la pêche, la politique des transports, la politique de l'urbanisme, donc même le tourisme, hein, qui est pas non plus sans impact sur la biodiversité. Donc on a vraiment un travail en profondeur, un travail de fond. Donc le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de faire virer le paquebot. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que on n'est pas sur une petite embarcation.
Et l'iceberg est très très proche,
voilà,
on va dire.
Et que le Titanic est peut-être pas loin.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté, et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant, et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous parlons du prochain grand rendez-vous international de l'environnement. Ce sera le Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille du 7 au 15 janvier prochain. Nous sommes en compagnie de Sébastien Moncor, directeur du comité français de l'UICN. Alors, il y a une initiative de l'UICN depuis 2014 qui s'appelle la liste verte, parce que il suffit pas de classer en fait des espaces en disant là c'est un espace protégé ou c'est une aire protégée. Il ne faut pas que ça devienne ce qu'on appelle des parcs de papier, c'est-à-dire des dessins sur des cartes et puis derrière en pratique il ne se passe rien.
Il y a vraiment deux aspects fondamentaux, et ça c'est, il faut reconnaître aussi le travail de l'UICN sur qui a largement aidé à structurer et développer ce réseau d'espaces protégés. Donc on est en train de parler de parcs nationaux, de réserves naturelles, et qui sont vraiment, je dirais, le principal outil quand même de conservation de la nature. Et on a deux défis importants là-dessus. On a à la fois l'extension du réseau. On est à environ à 15% d'espaces protégés dans les milieux terrestres.
Mais d'espaces qui sont vraiment protégés ?
Alors, c'est ça qu'il faut vérifier.
Pardon, vous alliez dire le pourcentage en marin, peut-être.
Voilà, et 7% sur le marin. Mmh. Donc l'objectif qui était fixé pour 2020, normalement, c'était 17% sur le terrestre, on n'est pas loin, et 10% sur le marin. Il faut voir aussi, et ça c'est vraiment un des succès récents, c'est que sur les 10 dernières années, vraiment le réseau des aires marines protégées, vraiment de la protection de la mer, est un sujet qui s'est considérablement développé et que l'UICN a beaucoup accompagné. Et c'est vraiment important, puisqu'on voit le rôle fondamental des océans aussi par rapport au changement climatique, puisque le principal réservoir naturel de carbone en fait de la planète, c'est l'océan. Donc on a à la fois l'extension du réseau. Alors, pas n'importe où, pas n'importe comment. C'est pour ça que nous recommandons, et c'est aussi un nouvel outil de connaissance qu'a apporté l'UICN, c'est l'identification des zones clés de la biodiversité, c'est-à-dire savoir là où c'est le plus important de protéger les milieux naturels et
les
espèces.
Et de là, mettre le paquet, hein, pour parler de façon simple mais claire.
Et en disant,
et pas uniquement mettre 10 éco-gardes et dire en espérant que ça se passe bien, quoi.
Voilà. Et donc, l'autre aspect fondamental, c'est celui que vous avez évoqué, c'est ce qu'on appelle, nous, l'efficacité de la gestion. C'est-à-dire, et vous l'avez dit, il ne suffit pas simplement de créer l'aire protégée comme ça dans un texte ou sur une carte. Il faut qu'elle soit gérée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plan de gestion, il faut qu'il y ait des gestionnaires, donc des gens sur le terrain qui travaillent à des actions de conservation de la nature. Et c'est pour ça que l'UICN a mis en place cette liste verte des aires protégées, donc qui permet d'évaluer l'efficacité de cette gestion et de récompenser au niveau international ceux qui ont bien travaillé et qui atteignent leurs objectifs.
Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a 35 pays qui sont identifiés sur cette liste verte. Ça ne cesse de grossir, mais j'imagine une partie de nos auditeurs qui nous écoutent qui disent « ben oui, mais pour ça aussi, il faut des moyens ».
Oui, alors c'est évidemment les moyens, les financements, c'est le nerf de la guerre. On estime au niveau mondial qu'il faudrait aujourd'hui environ 300 à 400 milliards de dollars par an pour gérer correctement, enfin pour agir correctement pour protéger la biodiversité, notamment à travers la gestion de ces espaces protégés. Et aujourd'hui, on est environ à 50 milliards.
Donc, c'est rien.
Donc, il y a quand même un fossé important qu'il faut combler. Donc, il faut essayer de développer, comme ça a été fait pour la Convention climat, le fonds vert, enfin des fonds qui permettent d'accompagner beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante ce financement des actions de protection de la nature. Et puis, pour rejoindre ce qui a été dit par Aurélien Barraud, soyons sérieux, soyons cohérents. Si nous mettons de l'argent pour protéger davantage la nature, évitons d'en mettre dans celle qui contribue à la dégrader. Et ça, c'est un sujet particulièrement important, particulièrement sensible pour les États, mais sur lequel il faudrait avancer davantage. C'est ce qu'on appelle la réforme des subventions néfastes à la biodiversité.
Voilà, arrêtons par exemple les subventions aux énergies fossiles et mettons des subventions pour créer réellement des aires protégées, voilà, par exemple.
Ou accompagner la transformation de l'agriculture productiviste vers davantage d'agroécologie ou d'agriculture biologique.
Alors j'imagine que ce n'est pas Bertrand de Montmolin qui vous contredira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du comité national suisse de l'UICN, alors la Suisse qui abrite dans sa ville de Gland le siège international, mais vous occupez donc du comité suisse. Alors vous souhaitez, on en a parlé en préparant cette émission, que plusieurs sujets émergent lors du congrès en janvier prochain. Vous me parliez notamment de l'impact de l'agriculture mondialisée. Sébastien Moncor en parlait à l'instant et vous disiez que ça a des effets dévastateurs sur la biodiversité. On en parle souvent dans cette émission et pour vous c'est un sujet vraiment essentiel à aborder durant ce congrès.
Oui, effectivement. C'est un sujet qui concerne la Suisse également. La Suisse importe beaucoup de denrées alimentaires. Son niveau d'auto-approvisionnement est de l'ordre de 60% seulement. Et puis le coût élevé de la production agricole en Suisse, ainsi que le faible coût des denrées alimentaires importées, met une très forte pression sur les agriculteurs qui ont tendance à intensifier leurs méthodes de culture. Donc ceci a un effet très négatif sur la biodiversité et l'environnement en général. Il faut savoir aussi que les capacités de l'agriculture suisse sont limitées, on a un relief important, donc il n'y a pas beaucoup de zones de plaine qui sont cultivables. Mais il y a maintenant cette tendance forte à avoir une intensification de l'agriculture et plus de productivisme. Et ceci a été amplifié d'ailleurs après la crise du Covid, qui a fait naître des craintes au sujet de l'approvisionnement en denrées alimentaires de la Suisse.
Alors j'imagine, Bertrand de Montmolin, qu'en Suisse, vous allez porter aussi la parole des peuples des montagnes, défendre la biodiversité des montagnes.
Oui, alors effectivement, la biodiversité des montagnes et de la chaîne alpine en général est un thème particulièrement important pour nous. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne trouve que dans les Alpes, que dans les montagnes. Et puis, nous avons en Suisse une tradition séculaire d'agriculture de haute altitude qui, elle, n'est pas trop soumise à une intensification, mais on ne sait jamais. Et nous avons une coopération avec beaucoup de pays étrangers qui sont riches en montagnes, de manière à partager des bonnes pratiques, non seulement en agriculture, mais aussi en conservation de la nature.
Merci beaucoup Bertrand de Montmolin pour votre témoignages. Donc la Suisse sera aussi présente, évidemment, à Marseille début janvier. Sébastien Moncor, on arrive à la fin de cette émission. Il y a beaucoup à dire sur ce congrès. On en reparlera, on y reviendra, évidemment, d'ici là. En guise de conclusion, les quelques mois qui viennent là vont être des mois de travail intense, de réseau, de tout le monde va essayer de pousser ses recommandations. Ça travaille déjà dans les coulisses.
Bien sûr, puisque c'est le congrès, c'est le moment privilégié de la mobilisation. C'est-à-dire, si mobilisation internationale il doit y avoir, c'est à Marseille, pendant le congrès mondial de l'UICN, que ça doit se jouer. Donc, c'est un travail de longue haleine. Nous, en France, on y travaille depuis l'annonce officielle en mai 2018. Donc, ça fait plus de deux ans maintenant.
Ça devait être en juin, ça a été reparté.
À cette mobilisation, ouais. Voilà. Donc, on mobilise tous nos membres. On mobilise également beaucoup plus largement. On accompagne des initiatives pour que les entreprises s'engagent davantage sur la biodiversité, les collectivités locales. On a travaillé avec Marseille.
Et comme c'est en France, vous souhaitez que la francophonie se fasse entendre haut et fort.
Exactement. Voilà. L'UICN a trois langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol. Et on souhaite tenir le rang du français et donc de la francophonie. Et on est très heureux que, effectivement, tous nos collègues des pays francophones se mobilisent aussi, avec lesquels voilà, on a des échanges, des collaborations régulières. On voit qu'on partage vraiment des thématiques et des sujets communs qu'on va pouvoir pousser ensemble. Pour faire de ce congrès mondial ce grand élan nouveau pour la protection de la biodiversité que nous attendons tous quelques mois avant le temps de la décision par les États, par l'ONU en Chine pour ce nouveau plan d'action mondial pour lequel on doit effectivement rehausser les ambitions. Et on sait que les États sont sensibles à cette pression qu'exercent les ONG, que peut exercer le grand public, que peuvent exercer toutes les composantes de la société, y compris les peuples autochtones dont nous avons parlé, dont on sait qu'ils jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Donc il faut qu'il y ait cette vaste mobilisation et que du coup les États soient à la hauteur des engagements que nous attendons tous.
Oui, écoutez, on va partager votre enthousiasme et on va dire que on y croit, on verra bien, on sera là-bas sûrement, on sera critique évidemment et on sera très attentif à ce qui se dira. Merci beaucoup Sébastien Moncor d'être venu dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous bien entendu, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. About every single kind of species. Bob your head, go ahead and sing along with me. Biodiversity in the different habitats you see, from the moose and the mouse, the goose and the grouse, and the humans you see hanging out with me. Biodiversity, variety of life, so many different kinds, and it's dynamite. You can look at different species from shore to shore, or maybe just a little pond to explore. It's a community like your neighborhood. Identify and understand the things you should. Like, how does all the life on Earth even relate? This biodiversity, lessons on your plate. An ecosystem is full of predators and prey. Got to know who's eating who every single day. Sunflowers, blue whales, all in their area. White-tailed deer, pine trees, and bacteria. Sometimes we can't see this biodiverse universe full of species. We need a microscope first. Every living thing in its habitat is a part of biodiversity. And that's that. Biodiversity, everything alive in community. Talking about every single kind of species. Bob your head, go ahead, sing along with me. Biodiversity in the different habitats we see, from the moose and the mouse, the goose and the grouse, and the humans you see hanging out with me.